Bonjour Yasmine.
Bonjour Marie.
Alors, dans les discours réformateurs, on parle beaucoup de mettre aux normes internationales les prisons africaines. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ?
Alors, tout d'abord, ce discours réformiste, il n'est pas spécifique à l'Afrique. Il est né en Occident dès le XVIIIe siècle, avec l'apparition de la prison. Sont apparues aussi des préoccupations pour réformer les conditions d'incarcération qu'on jugeait trop mauvaises, insalubres, néfastes. Et donc des réformateurs ont circulé à travers différents pays du monde pour s'inspirer de modèles. Et ils ont échangé entre eux, notamment au cours de congrès internationaux qui se réunissaient dès le 19e pour élaborer des bonnes pratiques, se mettre d'accord sur des normes de la bonne incarcération et élaborer des modèles qui pouvaient servir à faire des établissements pénitentiaires meilleurs en termes disciplinaires ou en termes hygiénistes.
Et tu aurais un exemple ?
Oui, par exemple, la prison civile de Tunis de 1906 a été construite en remplacement de lieux de détention jugés insalubres et sur la base de ces normes élaborées au cours des congrès internationaux. Et donc, elle est dotée de l'eau courante, de l'électricité elle vise à se rapprocher de ces modèles-là. On peut aussi voir des échanges d'expériences tels que la libération conditionnelle qui inspire de ce fait des peines alternatives à l'incarcération, mais aussi des principes de bonne pratique en matière de gestion de la population carcérale, séparation des prévenus et des condamnés, des mineurs et des majeurs. Voilà, c'est un ensemble de normes qui vont se diffuser au niveau mondial.
D'accord, donc en fait ce sont ces échanges de bonnes pratiques qui deviennent les normes internationales.
Tout à fait, et notamment avec l'élaboration de principes humanitaires. C'est le cas de ce qu'a proposé le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, avec des premiers engagements internationaux concernant les prisonniers de guerre au cours du XXe siècle. Donc la Convention de Genève de 1929 fixe des principes de détention concernant ces prisonniers de guerre. Et par la suite, avec notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, des principes plus généraux pour l'ensemble des détenus sont établis, notamment l'interdiction de peine ou traitement inhumain ou dégradant.
Enfin, c'est très général.
C'est effectivement très général, mais c'est ce qui a servi d'appui pour élaborer par la suite des standards plus précis au cours de réunions où se regroupaient des professionnels pénitentiaires, des juristes qui échangeaient sur les pratiques pour élaborer des standards à diffuser au niveau mondial sur la bonne gestion des établissements ou sur la manière dont on devait traiter les prisonniers.
Donc, ce sont les règles sur le, à minima sur le traitement des détenus.
Tout à fait, donc des règles qui ont été adoptées en 1957 et qu'on appelle en anglais les Standard Minimum Rules, donc les SMR, et qui fixent par exemple des principes en matière d'agencement des locaux, qu'il vaut mieux un encellulement individuel plutôt que collectif, ou en matière de droit, donc par exemple l'accès à la santé, aux soins médicaux pour les détenus.
D'accord, est-ce qu'il y a d'autres conventions internationales ?
Alors, il faut d'abord voir que ces règles, elles ont inclus d'autres principes de droit international avec leur actualisation en 2015, donc ce qu'on a appelé les règles Mandela, c'est une actualisation des règles minimum, des standards à minima de traitement des détenus qui inclut des nouveaux principes, notamment en matière d'accès aux activités. Par ailleurs, il y a effectivement d'autres conventions internationales qui ont été adoptées et qui visent notamment des publics spécifiques. Donc, par exemple, la convention de Beijing de 1985 ou encore la convention de Bangkok de 2010 concernant les femmes.
Et comment l'application de ces normes, elle est effectivement contrôlée ?
Alors ça, c'est effectivement une question qui est abordée dans le droit international à travers notamment l'OPCAT, qui est ce protocole additionnel à la Convention de prévention de la torture, qui prévoit pour les États signataires l'instauration d'un mécanisme de contrôle des conditions de détention, ce qui signifie concrètement que les États s'engagent à établir une instance indépendante habilité à contrôler les prisons, les hôpitaux psychiatriques, les locaux de garde à vue, les centres de détention pour migrants, et de vérifier que dans ces lieux-là, la législation nationale et internationale en matière de respect des droits fondamentaux est effectivement appliquée. En Tunisie, par exemple, une instance nationale de prévention a été créée en application de cette convention internationale.
Oui, donc il y a un contrôle effectif.
Alors après, l'effectivité de ce contrôle est effectivement discutable en fonction des contextes locaux. Tout dépend de la réalité de l'indépendance de cette instance. Est-ce qu'elle a les moyens de fonctionner? Est-ce qu'il y a des tribunaux auprès desquels on peut se tourner pour obtenir sanction des violations constatées? Donc au final, tout dépend des contextes locaux, de la capacité des juges à se saisir des plaintes. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le fait que l'État reconnaisse en théorie ces principes-là, ça donne un levier pour les citoyens et les associations afin de demander des comptes en cas de violation.
D'accord. Et donc, de manière générale, comment les États africains s'approprient-ils ces normes ?
Alors, les États africains ont développé des législations nationales, mais aussi des législations, des conventions au niveau régional, notamment à travers la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui s'est intéressée à la prison en créant un rapporteur spécial sur les prisons et en adoptant au cours de différentes conventions internationales des déclarations. Donc, par exemple, la déclaration de Kampala de 1996 sur les conditions de détention en Afrique, qui préconise pour réduire la surpopulation carcérale de recourir aux peines alternatives. On peut penser également à la déclaration de Ouagadougou de 2002 qui prévoit non seulement des principes relatifs à la réinsertion, mais également des principes relatifs à l'accès aux soins médicaux en détention.
Ces déclarations, elles doivent beaucoup au travail des militants des droits de l'homme, non ?
En effet, c'est vraiment ce travail de plaidoyer d'associations locales et d'ONG internationales de défense des droits de l'homme qui a permis de rendre possible l'adoption de ces déclarations. On peut penser au travail fourni par l'association Penal Reform International, qui a été fondée par un ancien prisonnier politique tunisien, Ahmad Othmani. Et cette organisation a beaucoup œuvré pour réunir des réformateurs de différents pays d'Afrique et élaborer des normes pour la réforme des prisons africaines au niveau du continent.
Oui, donc ces textes, ces déclarations, c'est pas juste une façade.
Alors, ce qui est remarquable, c'est que les institutions internationales et les agences de coopération se sont saisies de cette question carcérale, notamment pour aider les pays à se mettre aux normes carcérales qu'ils avaient adoptées. Après, il faut s'accorder sur l'interprétation pratique de ces normes. Par exemple, lors de la construction de nouveaux établissements, tout le monde fait référence aux Standard Minimum Rules, qui prévoit par exemple qu'il faut un minimum de 4 mètres carrés de surface par détenu. Or, si on prend l'exemple de la Tunisie, qui construit actuellement des nouveaux établissements pour améliorer ses conditions d'incarcération, c'est la capacité théorique des établissements qui prévoit 4 mètres carrés par détenu. Mais compte tenu de la surpopulation chronique de ces établissements, on peut douter de la disponibilité effective de cette surface pour les détenus. Et quant aux principes plus philosophiques relatifs à la réinsertion, on peut effectivement douter de leur mise en place dans des pays qui ne comptent pas du tout de services sociaux de base et pour lesquels même l'alimentation des détenus pose problème.
Oui, donc il y a quand même un enjeu d'appropriation des normes.
Il y a un enjeu d'appropriation des normes et il y a un enjeu dans la traduction effective et matérielle de ces normes en droit concret pour les personnes. Et donc la question, est de savoir si elles se traduisent dans des législations nationales qui peuvent être très progressistes, mais parfois ne disposer d'aucun moyen de mise en œuvre effective. Et surtout, une autre question, c'est de savoir si, quelle est la place des législations et des normes pratiques relatives à la sécurité qui aussi participent à transformer très fortement la prison dans un sens qui n'est pas toujours le même que celui des droits humains.
Oui, mais là aussi, à condition d'avoir matériellement les moyens de les mettre en œuvre.
Tout à fait. On peut penser par exemple au fait que le modèle architectural états-unien du Supermax, donc l'unité de très haute sécurité qui vise au contrôle des détenus, ce modèle-là se diffuse un peu partout dans le monde, pense notamment à l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, et il se diffuse assez peu en Afrique à cause de son coût très élevé. Et néanmoins, il est relativement attractif pour des raisons de sécurité, notamment dans des pays confrontés à des problèmes de gangs ou de terrorisme. Et cette diffusion, même si elle est limitée, elle a une réalité effective. On peut penser par exemple à la prison CEMAX de Pretoria en Afrique du Sud, qui est modelée sur ce principe de l'unité très sophistiquée de contrôle des détenus.
Oui, donc ce que tu décris dans cette circulation de standards, c'est qu'il existe un enjeu de droit humain, mais finalement aussi un enjeu sécuritaire.
Oui, ce qu'il faut voir, c'est que dans la mondialisation de ces pratiques punitives, il y a à la fois une dimension de droits humains et une dimension de technologie de la sécurité. Et il faut voir ensuite sur le terrain comment ces normes internationales en matière de droit et en matière de sécurité se traduisent concrètement dans des dynamiques locales et sur des terrains aux réalités matérielles très contrastées.